Good morning, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 mars, il commence à le faire beau à Paris. Il fait un peu moins bon en ce moment sur les cryptos, même si on est toujours dans cette phase très optimiste de bull run, mais le Bitcoin est à 63 000 dollars, l'Ethereum à 3224, Solana 174. Et c'est une room qu'on va faire de plus en plus régulièrement au NFT Morning. Il se peut même qu'elle devienne hebdomadaire. C'est la room avec Samy Cool, avec Samy Bertouni, qui s'occupe du gros chez Decrypt. Hello Samy, comment ça va ?
Yo, salut tout le monde, c'est toujours un plaisir de t'entendre dire good morning le matin.
C'est cool, en plus on sait que c'est tôt pour toi, on sait qu'il est 8h à Caparica, Lisbonne en ce moment.
Exactement, mais bon ça va, l'activité même Solana me fait réveiller un peu plus tôt, donc c'est bon, je suis réveillé et prêt.
T'as fait des pré-sales un petit peu ?
Non, j'ai fait vraiment zéro pré-sale. Dès que de pas rentrer sur celle de Small, qui a l'air un peu plus intéressante. Mais non, là pour l'instant, j'aime bien le récupérer le trade après le dip. T'as souvent une grosse hausse liée au pré-sale. Après, t'as tous les whales qui vendent. T'as un petit dip sympa. Ce qui se passe un peu en ce moment sur Shroom d'ailleurs. Et généralement, tu as un petit x2 sympa à faire. Je t'avoue que je suis pas du tout risk taker là-dessus. J'ai quand même perdu pas mal d'argent le week-end dernier, là.
Ouais. Ouais, je comprends. Bah, c'est pour ça que je suis pas du tout risk taker là-dessus. Moi, je fais rien, tout simplement.
T'es journaliste, tu restes neutre.
Je reste neutre. Voilà. Éventuellement, j'achète juste un peu de Solana là quand ça baisse pour me dire que bon, voilà. Mais autrement, tout le reste, c'est trop. Faut être trop taquet sur ce genre de truc. J'ai pas la force. Enfin, je sais pas ce qu'en pense d'ailleurs Rem qui est avec nous aussi et que j'ai pas introduit. On a entendu ces applaudissements, mais ça va, Rem?
Ouais, cool. Bah, écoute, je vous écoute. Non, j'étais en train de me dire, c'est marrant parce que ça fait un moment qu'on dit, ouais, c'est le bull run et tout, cool. Mais il va y avoir, attention, il va y avoir une correction. Et en fait, finalement, au lieu de dire, bon, bah, ok, j'anticipe cette correction, je prends mes profits, je les mets en stablecoin et tout, bah, en fait. Enfin, je pense qu'il y en a qui l'ont fait. Moi, je ne l'ai pas fait.
Non, bah oui. Après, ça dépend de ton. Moi, je suis pas. Moi, c'est pas ma stratégie, moi, de gérer les corrections. Moi, je suis pas du tout un. J'arrive pas à faire ça, tu vois. Chercher le bon timing, vendre au top, racheter au bottom, buy the dip, etc. Enfin, oui. Là, en ce moment, ça baisse, donc je vais avoir tendance à. Moi, je suis bon pour racheter, tu vois. Donc, quand ça baisse, je vais en racheter un petit peu, mais je ne sais pas vendre, tu vois. Moi, je vais plutôt attendre la fin de l'année, de voir comment les choses se passent. Mais disons que sur tous les cycles qui se passent tout au long de l'année, moi, je trouve que c'est... Enfin, voilà, évidemment, on le sait. Hein, évidemment, c'était évident. Mais d'un autre côté, tu ne sais pas exactement quand ça va arriver, tu vois. Tu crois que tu peux aussi avoir un moment où tu crois que ça va baisser. John.
C'est un grand casino.
Ouais, c'est ça.
C'est un grand casino et je pense que c'est ça. Enfin, en tout cas, moi perso, j'ai pas du tout été actif, tu vois, sur le précédent bull run. Et de un, t'as cette FOMO, tu vois, de dire ah là, t'es plutôt bien placé pour et apprendre et trader un peu, faire du day trading un peu en apprenti sorcier, quoi. Mais là où je suis assez précautionneux, entre guillemets, c'est que je fais ça sur une partie d'un wallet avec lequel je m'amuse, entre guillemets. Et où tu perds pas gros si jamais tu perds ou en tout cas pas de tes gains perso quoi. Donc c'est la dopamine pure quoi.
Ouais, c'est ça. Mais moi je sais pas, c'est vrai que je sais pas faire. C'est pour ça que je suis très peu sur je suis très peu là-dessus. Voilà, j'ai quelques meme coins mais même ces meme coins, je vais pas les vendre, tu vois. Je me dis voilà, j'ai des meme coins de conviction si tu veux du PP ou les WIF ou les grosses market cap en me disant si c'est une année meme coin, bah de toute façon, ils reviendront. mais peut-être pas. Et voilà. Et c'est vrai qu'après, c'est un jeu. Honnêtement, c'est un jeu. Moi, je pense que le jeu du trading, c'est un jeu où il y a très peu de gens qui sont très bons pour gagner de l'argent. Voilà, moi j'aime bien.
Absolument d'accord avec toi.
Donc.
Quasiment à chaque fois où j'ai fait du day trading, où j'ai voulu acheter, vendre à certains moments, etc., en étudiant le truc, j'ai souvent perdu de l'argent sur beaucoup de variables, tu vois, qui sont pas que tu connais pas au départ, quoi. Des frais de transaction, des situations où tu n'as pas forcément la main. Et c'est vrai que c'est assez intéressant aussi d'apprendre un petit peu cet écosystème par ce bout-là, quoi.
Ouais, c'est ça, mais il faut faire attention parce que même si on croit voir des patterns, même si on croit que ça monte, ça redescend, que ça va, honnêtement, pour moi, c'est un métier. C'est-à-dire que tu vois, c'est un métier, tu t'improvises pas là-dedans et si tu te lances là-dedans, il faut être prêt à perdre beaucoup d'argent pendant beaucoup de temps avant de comprendre comment ça marche.
Complètement.
Et tu vas souvent, en fait, tout le souci, c'est le timing et c'est très dur de ne pas être à contre-temps. C'est pour ça que moi, je suis pas du tout dans ce. Enfin, voilà, c'est pour ça que
Et
je suis pas trop dans ce jeu, mais.
ça ouvre, enfin, et il y a des portes liées à la sécurité qui sont ouvertes, tu vois, entre les sniper bots que tu fais pour pouvoir faire ton trading plus rapidement, entre les trucs que tu lis, les trucs que tu signes sans forcément les lire ou les comprendre. C'est quand même hyper risqué dans plein de mesures, mais tu vois, on dit souvent que à ton premier bull run, tu perds gros et t'apprends. À ton second, t'apprends un peu plus. Et peut-être au troisième, effectivement, tu arriveras à faire un peu des trucs. En tout cas, c'est ce qui se dit dans mes groupes Telegram d'apprentis sorciers.
Il faut attendre le prochain alors, c'est 2030.
Potentiellement, ouais, potentiellement, moi, c'est à mon prochain que j'arriverai à faire un truc sympa. Mais non, non, c'est assez intéressant quand même le côté un peu. Même, enfin, tu comprends un peu mieux la bourse, pourquoi est-ce que ça ouvre à une telle heure et pourquoi est-ce que ça ferme à telle heure. Parce que quand tu es en plein dans la folie du trading et que, comme lorsque tu as gagné ton premier gain quand tu as gratté un jeu au tabac, tu deviens complètement fou et complètement éveillé, même à des heures où tu ne devrais pas l'être, sur ce que ça représente, ce que tu peux faire, tu vois. Donc, je pense que le côté un peu. À quoi sert la régulation? Pourquoi est-ce que c'est aussi un élément fondateur, tu vois, d'un écosystème sustainable? Je trouve ça, voilà, je comprends un peu plus en l'ayant vécu, en quoi c'est intéressant et en quoi c'est porteur d'avenir aussi pour l'écosystème.
Bah écoute, c'est une bonne entrée en matière de prise de news. Mais aujourd'hui, on va parler d'un événement en particulier. Donc, il y a un article. Du coup, c'est un petit peu ça qu'on va faire avec toi à chaque fois aussi. On va prendre un point de départ qui va être un article de Decrypt. Et donc, cet article-là, c'est au sujet du halving qui va arriver mi-avril.
Exactement. Bah écoute, ouais, il y a un sujet un peu fun et intéressant lié aux dates du halving. Les dates ont été un petit peu avancées, c'était prévu à un certain moment. Et en fait, on ne comprend pas toujours pourquoi. On pense souvent que le halving, c'est lié à une date précise dans le temps, alors que pas vraiment. Mais, si vous le permettez, messieurs, je reprendrai bien un petit peu ce que c'est que le concept du halving. Est-ce que
On permet,
Ben,
on permet
si vous me
carrément, merci.
permettez, messieurs, s'il vous plaît, là, il est tôt, je m'accapare de votre émission, permettez-moi de revenir un petit peu sur les sujets de base. Masterclass, vous avez 4 heures. Non, mais c'est aussi intéressant parce que je suis pas, comme je vous le dis, hein, je suis pas non plus un expert ni technique ni financier de ces sujets-là, mais j'apprends et en apprenant, je pense qu'il y a des trucs intéressants aussi à dire, tu vois, sur ce sujet. Donc ouais, le halving, c'est un événement qui apparaît, voilà, comme on le sait tous, un peu tous les 4 ans. C'est la valeur qui est distribuée aux mineurs qui est réduite de moitié. Donc c'est un processus qu'on appelle maintenant le halving. Et ça fonctionne surtout au niveau pour les mineurs et pour les investisseurs. Donc on doit d'abord comprendre en fait la théorie qu'il y a derrière, tu vois, l'approvisionnement du Bitcoin. Donc quand Satoshi Nakamoto, au grand Satoshi, croyait que le Bitcoin, la valeur du Bitcoin naissait au niveau de la rareté, qu'il n'avait pas du tout trouvé au niveau de la monnaie fiduciaire. Eh bien, le Bitcoin a été révolutionnaire en ce sens qu'il pouvait pour la première fois produire un produit numérique rare. Et donc le Bitcoin a été capé, comme on le sait tous bien sûr, à 21 millions de bitcoins et on ne pourra pas en produire plus. Donc l'idée, c'était de limiter de l'offre carrément, qui s'oppose nettement, comme je l'ai dit un peu avant, à la monnaie fiduciaire, même si au départ c'est pas forcément l'idée. La monnaie fiduciaire, donc la monnaie qu'on connaît tous, par exemple le dollar, qui a été créée, tu vois, avec des règles strictes au départ, et ben c'est vu un petit peu érodé avec le temps. Enfin, ces règles strictes ont été un petit peu érodées par des guerres, des moments de grande dépression qu'on a pu connaître au fil de l'histoire. Et en fait, aujourd'hui, en gros, l'État peut imprimer de l'argent quand il le souhaite, quoi. Et ça, c'était vraiment le gros point de rupture avec la philosophie derrière le Bitcoin et celle de Satoshi Nakamoto. C'était que cette dévaluation, en fait, elle pouvait avoir des effets désastreux sur la société, l'économie, etc. Et donc, avec du code, notre cher Nakamoto, tu vois, il a empêché un petit peu de cette variable de pouvoir créer plus de Bitcoin que ce qu'il a créé au départ. Et donc voilà, et donc c'est dans cette mouvance que s'inscrit aussi le halving philosophique et dans le code, où le Bitcoin a été capé à une supply de 21 millions de tokens. Et des nouveaux Bitcoins sont émis grâce au minage, comme on le sait, et ces mineurs sont récompensés avec des Bitcoins. Donc quand tu fais du minage, en fait, tu sécurises et tu fais du maintien un petit peu du réseau de Bitcoin, et tu es récompensé, voilà, avec de nouveaux Bitcoins fraîchement créés. Donc voilà,
Très bien.
un
Donc
peu
là,
grosso modo, ouais.
donc le principe, en effet, du coup, donc c'est mathématiquement ancré dans le code du Bitcoin, que donc on l'a dit en gros tous les 4 ans, mais voilà, c'est un peu plus précis que ça. La valeur, quand toi tu es mineur et que tu as des machines, est divisée par 2. Donc ça veut dire, en gros, il y a 2 fois moins. Donc il y a une certaine quantité prédéfinie de Bitcoin qui est alloué à une phase, et en fait tu rentres dans une nouvelle phase où il y a 2 fois moins de Bitcoin qui sont émis, c'est ça?
Exactement. En fait, tous les 4 ans, voilà, les récompenses sont réduites de moitié, et chaque réduction de moitié réduit le taux auquel le Bitcoin entre en circulation. Donc et ça, c'est un processus, en fait, qui a apparu, qui a commencé en 2012 et qui va durer jusqu'en 2140. Tout est timé. Et pour revenir un peu, tu vois, brièvement sur
2140, date à laquelle plus aucun bitcoin ne sera créé.
Exactement, exactement. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que comment est-ce que tu rémunères ces gens-là aujourd'hui, même si la valeur baisse, et tu récupères. Donc, comment est-ce que les mineurs sont récompensés si effectivement leur valeur de Bitcoin créé, fraîchement créé, est baissée, est baissée. Et en fait, c'est là où tu as tous ces frais de réseau qui sont aussi une partie qui est redistribuée aussi aux mineurs. Voilà. Et donc, rapidement sur les dates, 2012, premier halving. Où en gros, au départ, les récompenses de minage étaient à 50 bitcoins par bloc. Premier halving en 2012, les récompenses sont passées à 25 bitcoins. Deuxième halving en 2016, donc à 12,5, ainsi de suite, jusqu'en 2040, où le 64e et dernier halving se produit et aucun nouveau bitcoin n'est créé. Et
Très
donc,
bien.
sur cette date, en fait, c'est ça qui est marrant aujourd'hui, cette date qu'on pensait arriver autour, enfin le 20 avril, elle s'est vue réduite. Et là, on pense que ça arrivera entre le 15 et le 17. On penche pour le 15. Et dommage, parce que c'était un événement assez marrant, tu vois, c'est ça qui était stylé avec cette date, c'était que c'était prévu pour le 20 avril, 420. Et il y avait une idée un petit peu au début de l'année qui était que le Bitcoin atteindrait son all-time high de 69K le 20 avril. Bien sûr, il a dépassé cette date, mais si tu regardes un peu les significations un peu rigolotes de ces deux chiffres, ça a fait couler de l'encre un petit peu au niveau des internautes et des gros trolls sur le web. Voilà.
Très bien. Et donc, je me posais la question, donc pourquoi déjà ce halving, la date se rapproche?
Eh ben, la date se rapproche parce que c'est ça le halving n'a rien à voir avec une date précise qu'on donne. En fait, ça a rapport avec le fait que le halving doit arriver à une hauteur de bloc exacte et non à une date. Donc, en fait, là, par exemple, pourquoi est-ce qu'on pense que ça arrivera beaucoup plus vite. Il y a eu énormément d'activités, tu vois, récemment sur le halving. Il y a eu, bien sûr, tous les ETF Bitcoin. Il y a eu des all-time high qui ont été dépassés et redépassés là depuis un moment. Et en fait, tout ça fait que le halving est prévu pour se produire au bloc 840 000. Et là, avec toutes ces transactions qui sont créées, on arrive beaucoup plus vite à ce niveau-là, quoi. Et là, aujourd'hui, on est environ autour de 840.
Donc là, le temps, okay, le temps, ouais, toute l'excitation qu'il y a sur le Bitcoin, l'augmentation des transactions, et puis même, j'imagine, tout ce mouvement Ordinals aussi, fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont frappées en ce moment. Et alors, donc le temps s'accélère. Donc ça, c'est une première chose. Ce que je voulais comprendre, du coup, c'est juste pour faire très simple, pourquoi enfin, même si ça peut paraître évident, pourquoi le Bitcoin est censé augmenter à partir du moment où il y a un halving ?
Et ben en fait, c'est une question ouverte en vrai. Il n'y a pas vraiment de certitude liée à ça, mais on pense que oui, tout simplement lié à la rareté. Tu vois, c'est la supply qui diminue, moins de Bitcoin, plus de valeur liée à ça. Bien sûr, il n'y a pas que ça qui rentre en jeu. Tu as aussi les transactions, les quantités qui sont achetées, vendues, etc. Mais la grosse réponse à ça, c'est clairement lié à la rareté du Bitcoin qui devient de plus en plus rare.
Donc voilà, on sait que le Bitcoin devient plus rare d'un coup. Donc techniquement, il y a moins de Bitcoin qui vont être... Enfin, moins de Bitcoin qui vont être minés. L'intéressement aussi pour les mineurs est... Enfin, voilà, c'est ça aussi, c'est mécaniquement, quoi. Le coût, on va dire, le coût d'extraction du Bitcoin devient plus important.
Et tu gagnes moins.
Et tu gagnes moins. Enfin, c'est ça. C'est-à-dire au même investissement que tu vas fournir en électricité, en énergie, en ce que tu veux, eh ben, tu vas gagner deux fois
moins. Mais la valeur, devient plus importante. La valeur d'un Bitcoin devient plus importante. C'est assez marrant comme tout se pondère et devient une espèce de cercle vertueux. Tu gagnes moins de Bitcoin, mais le Bitcoin a plus de valeur. Et en plus de ça, tu gagnes plus de frais de réseau liés à ça, quoi.
Voilà, mais ce qui joue quand même malgré tout, c'est qu'avant le 15 avril, avec le même investissement, tu as quand même un passage divisé par deux.
Ah ouais.
Tu gagnais 1000 et le lendemain, tu gagnes 500 malgré tout. Donc, et le Bitcoin... Donc, tu as une sorte de rattrapage qui se fait un peu sur le cours du Bitcoin et qui fait que mécaniquement, alors c'est ça un peu les questions, c'est comme tu le disais, on ne sait pas exactement, mais voilà, c'est à la fois psychologique et à la fois malgré tout l'effet rareté qui joue, qui fait que historiquement, après chaque halving, le Bitcoin s'est envolé.
Alors historiquement, ouais. J'aimerais bien avoir le retour de certaines personnes. Je crois qu'il n'y a pas eu un rapport mathématique direct. Le prix s'est pas envolé après chaque halving. Je crois qu'après celui de 2016, c'était pas forcément le cas. S'il y a des gens dans l'audience qui s'y connaissent un peu plus, levez la main, et qui connaissent un peu le vrai chiffre, n'hésitez pas à intervenir. Mais je crois que après celui de 2016, ça n'a pas été le cas. Mais sur le long run, encore une fois, oui, ça a eu un impact.
D'accord. Moi, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai le sentiment que il me semble qu'après le dernier halving, il y avait quand même le mois qui suivait, il y avait eu un effet assez fort sur le Bitcoin. Hein. Et d'ailleurs, c'était un peu la croyance qu'il y avait avant que le Bitcoin s'envole rapidement comme il l'a fait. C'était un peu l'attente du halving en se disant non, mais en fait, la finance n'anticipe pas. Enfin, même si t'anticipes jamais assez le halving. En fait, c'est un peu une sorte de croyance qui disait oui non mais au moment du halving que tu l'aies anticipé ou pas, il y a un effet mécanique d'augmentation qui se déroule dans le mois ou les deux mois qui suivent.
Donc on peut clairement s'attendre à ça, ouais. En plus effectivement avec toutes les transactions qui a lieu, tous les all-time highs qui sont acquis. Ouais, après je pondérerais bien au fait, tu vois, où par exemple, tu vois, tu as un effet tu as tous les il y a eu un gros dump récemment, notamment dû, tu vois, au trust, la Grayscale Bitcoin Trust qui a revendu énormément de Bitcoin. Je crois que c'est 4,3 milliards de dollars de Bitcoin qui ont été revendus. Tout simplement par le, enfin c'est le, je connais pas très bien, mais c'est le système qui fait que bah si eux rachètent du Bitcoin, si tu as des clients à eux qui veulent cash out, et ben ils sont obligés derrière de revendre le Bitcoin pour pouvoir rester dans le positif entre guillemets, grosso modo. Donc tu as aussi ça, c'est que tu as aussi plein d'acteurs, d'énormes acteurs de l'économie crypto aujourd'hui qui ont un pouvoir de dump entre guillemets, ou qui a un pouvoir sur le truc qui est un peu plus élevé. Mais bon, on parle de Bitcoin, on ne parle pas de monnaie plus petite, donc ça devrait se réguler plus facilement, quoi.
Non, mais là où tu as raison, c'est qu'on n'a aucune certitude sur le sujet. On n'a aucune certitude. On n'a aucune certitude sur le sujet. Et on ne sait pas d'ailleurs comment aussi les investisseurs traditionnels, enfin l'ETF, finalement, l'arrivée de l'ETF, c'est vrai que c'est une nouvelle très positive. Mais comment dire?
Bah, c'est effectivement, il y a, y a, y a des, c'est comme de grosses whales qui apparaissent et qui bien sûr ont un pouvoir assez gros. Je crois qu'il y a eu, je sais pas ce qu'il y a eu récemment, où tu as eu sur une des plateformes sexe une espèce de, je crois que c'était BitMEX. Ah, je dis peut-être des bêtises, où tu avais justement un gros acteur corporate qui a fait dumper le prix du Bitcoin sur la plateforme centralisée. Du coup, tu peux
Ouais,
voir un
moi je
peu.
pense que c'est ça. En fait, de toute façon, il y a plein d'effets, il y a plein d'effets incertains, de toute façon, à chaque nouvelle tendance, à chaque nouvelle année. Est-ce que les acheteurs ETF vont se comporter de la même manière que les dégènes? Ça veut dire, est-ce que l'ETF, enfin, est-ce que le To the Moon, finalement, va jouer, ou est-ce que finalement, des family office qui jouent un peu ce rôle des fois d'intermédiaire, vont pas aussi à un moment se dire, attends, t'as une belle prise de profit à faire, profites-en. Bon, c'est vrai qu'on est plutôt
Bah,
positif.
carrément,
Ouais.
parce que ça, bah, tu vois, le fonctionnement d'un ETF adossé au Bitcoin, tu vois, lorsque les investisseurs rachètent leur part, l'émetteur leur remet, tu vois, de l'argent liquide, puis vend les Bitcoins qui garantissaient leur part, tu vois. Donc, effectivement, ça dépend énormément aussi. Enfin, tu as de gros acteurs qui arrivent et qui peuvent fluctuer un petit peu là-dessus, mais comme ce qui s'est passé encore une fois, tu vois, avec le Grayscale Bitcoin Trust. T'avais des grosses
Ouais.
sorties de fonds quand même, quoi.
J'ai compris, j'ai compris. Et
Est-ce que je peux intervenir?
bien
Ouais. Non,
sûr.
déjà, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que.
On t'entend bien, Rem. Je veux bien que tu nous mettes admin. D'ailleurs, on a
Ah
quand même
ouais.
pas mal de pros du Bitcoin dans la salle
Alors.
aussi. On a Pépé RGB qui est là. On a Jérémy qui connaît bien aussi. On a Metafroggy. N'hésite pas à les ajouter
Ouais,
sur
je vais te
scène.
mettre admin 2 minutes parce que c'est avec l'autre téléphone du coup, mais. Juste. Je me demande si, en fait, je suis pas du tout un spécialiste. Je suis très mauvais en mathématiques. Je suis désolé. Je me demande si les attentes liées au halving ne sont pas surestimées aujourd'hui. Alors, je m'explique. Dans ma question, c'est que aujourd'hui, on est arrivé à, je crois, à 19 millions de bitcoins. Et finalement, le fait que il y en ait moins qui soient produits. Au fur et à mesure, donc ça va être divisé par deux. Aujourd'hui, on est à 6,25, je crois, on va passer à 3,125. Et au fur et à mesure, ça va se raréfier. Je crois même que entre, alors je sais plus exactement combien de temps, mais entre le dernier Bitcoin, je crois qu'il faudra 100 ans ou quelque chose comme ça pour qu'il soit créé.
Ouais, on a dit 2100,
Oui,
2140
d'accord,
ans,
mais
je
non,
sais
mais
pas
pour que
quoi.
le dernier Bitcoin soit créé, il faudra 100 ans, quelque chose comme ça, puisque ça va se.
Bah c'est ça. Ouais.
Et en fait, donc je me dis, ben, aujourd'hui, on a déjà une supply de Bitcoin à 20 millions, donc on est quasiment arrivé au bout du process en termes de volume, en tout cas. Et finalement, ça va devenir anecdotique les halvings. Puisque ça, en fait, finalement, parce que Samy, tu dis que ça crée de la rareté, mais ça crée pas de la rareté, puisque le
Le
La
Bitcoin en
supply,
soi, ouais, voilà.
la supply, elle est là, quoi.
Alors ça crée pas de la rareté effectivement, parce que le halving il était lié
Je sais pas si ma question était claire, mais.
Non, non, si, je pense que c'est très clair. Et effectivement, en fait, là où ça change vraiment le halving, c'est au-delà du prix que ça, enfin, pour les acheteurs classiques, c'est surtout pour les mineurs qui voient leur part de Bitcoin par bloc réduire de moitié. Donc
Ça, je comprends, mais je vois pas en quoi ce phénomène-là aurait un impact sur l'augmentation du prix, sur le prix en fait.
C'est une très bonne question. C'est une très
Bah, en fait, ouais, non, mais Rennes, c'est une excellente. En fait, je pense que, enfin, moi, je le vois sur deux aspects. Je pense que tu as raison, Rennes, tu as complètement raison, en fait. Le Bitcoin, c'est un produit fini qui doit arriver à 21 millions, je sais plus, et on est déjà à 19 millions. Donc, au final, sur les 100 prochaines années, il va y avoir une augmentation de la supply de Bitcoin qui va être de l'ordre de 10% et basta. Et donc le fait que là, bah voilà, en fait le fait que, en
Il y a
fait c'est après.
effectivement, même si tout ça est capé dans le temps, tu vois, tu vois, quand tu donnes 50 bitcoins à un mineur et que 4 ans plus tard tu en donnes moins, tu mets toujours, tu crées toujours, il y a moins de bitcoins en circulation, même si ça va arriver quoi qu'il arrive dans le temps. Il y a moins rapidement, le Bitcoin arrive moins rapidement en circulation, moins de liquidité quand même. Donc ça peut avoir un effet, c'est pour ça qu'il y a toujours une réserve de dire peut-être que ça n'aura pas d'effet aussi direct sur le sujet. Mais la liquidité instante qui va y avoir sur le marché, elle est quand même réduite.
Non, mais voilà. Après, je pense que j'imagine que, enfin, Rem, je pense que tu as raison sur le principe que chaque halving qui va arriver tous les 4 ans, potentiellement, en tout cas techniquement, est censé avoir moins d'impact que le halving précédent. Mais parce que, en effet, il y a beaucoup d'autres aspects qui jouent. Mais d'un autre côté, si tu veux, c'est, enfin, après, c'est la décélération de l'émission des bitcoins, le fait que l'émission de Bitcoin réduise. Moi, je le comparerais un petit peu, si tu veux, comme. Si tu veux, tu as d'autres marchés, mais tu vois, je sais pas, le marché du pétrole. Tu vois, tu as des coûts. Tu as des coûts. Tu as des coûts d'extraction et des coûts d'extraction. Et en fonction du cours du pétrole, tu vas avoir une sorte de rareté naturelle qui va s'installer, parce que si le pétrole est pas cher. T'as pas d'intérêt d'aller chercher du pétrole en profondeur. Et je pense que tu as un peu cette logique, même si elle est moins physique, mais de finalement l'effet qui fait que matériellement, tu as moins, malgré tout, moins de liquidités qui sont mises sur le marché. Et donc, après, je sais pas dans quelle mesure là où c'est quelque chose uniquement technique ou si c'est quelque chose aussi de essentiellement psychologique. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a un effet. Et d'ailleurs, enfin, c'est pas pour rien pour moi, malgré tout. Ça rentre dans cette composition de 2024 avec le cours du Bitcoin qui lead. Tu as quand même deux narratifs qui sont là cette année, c'est l'ETF et le halving. Et alors après, est-ce que c'est juste des narratifs ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui physiquement fait qu'il y a une rareté plus importante, ça je sais pas. ORM.
Non, non,
Tu voulais
non,
dire un
non,
truc?
c'est bon.
Ah non, tu voulais dire, non. Ouais, pardon. Mais ouais, on a Julien avec nous aussi, qui est un ancien du Bitcoin.
Salut tout le monde. Déjà, super intéressant. Coucou Samy, coucou Rem, etc.
Yo,
C'est vrai,
Julien.
vous posiez un peu des petites questions. C'est vrai que déjà, en effet, la plupart du temps, ça a augmenté déjà en valeur. Tu vois, 2016, tu vois, le prix, il était 417 USDC, USD, il est passé à 650. Donc c'est vrai que tout, à chaque fois, 2017, pareil, tu vois, plus 40%. Pour atteindre 920, à chaque fois, il y a un peu cet effet psychologique dans les gens, parce que tu vois, tu as totalement raison, Rem. Tu vois, il y a l'aspect psychologique où les gens se disent, OK, le halving, il est mal compris, et donc pour eux, c'est un phénomène de rareté, vu qu'en effet, c'est quand même hardcore, tu vois, de diviser par deux les récompenses du réseau aux validateurs. Et donc, aux validateurs, en fait, tu vois, et les validateurs, c'est les mineurs. Donc, c'est ça. Et en gros, si tu veux, la plupart, bah, tu sais, faut pas se leurrer, hein, la plupart des gens qui gèrent le marché, bah, c'est les mineurs, tu vois, c'est aussi simple que ça en fait. C'est eux qui réinjectent ensuite la liquidité dans le marché. Tu as des gens qui hold, tu as des gens qui ont des fonds, qui hold, etc. BlackRock, tout genre de choses-là. Mais c'est les mineurs, tu vois, qui fixent un peu le prix parce que sans eux, tu n'as plus de réseau concrètement, tu n'as plus de validation, donc Bitcoin mort. Et donc eux, ils sont obligés de rentabiliser leur ferme de minage. Donc l'électricité, bah, ça augmente un peu partout dans le monde. Voilà, tu vois, avec la température qui augmente, tu es obligé de refroidir tes fermes de minage, ou d'aller encore plus bas dans la terre, tu vois, pour creuser encore. Donc c'est un peu, tu vois, tout ce phénomène-là. C'est pas forcément la rareté, parce que comme tu le dis, en effet, tu vois, c'est la rareté de la récompense plutôt. C'est le supply de récompense encore available qui réduit, mais le supply, il est là, il est à 21 millions qui sera disponible en 2140, comme vous le disiez très bien. Et c'est vraiment, voilà, cette perception, tu vois, de la récompense, la validation, qui devient de plus en plus rare et donc de plus en plus cher et de plus en plus dur à aller trouver, en fait. Tu vois, pour gagner un bloc et pour gagner la récompense, ça devient de plus en plus dur, vu qu'il y en a moins à distribuer. Et de plus, tu vois, d'autant plus que là, on est quand même dans une période d'adoption, quand même, je dirais, allez, moyenne basse, quoi. Il y a quand même beaucoup de gens sur le marché. Donc, il y a beaucoup de gens qui essayent d'aller à la chasse, même si c'est totalement impossible pour le commun des mortels. Mais il y a beaucoup de gens qui vont à la chasse, justement, à ce fameux récompense par bloc. Donc, c'est un peu, je dirais, un peu tout ça, quoi, qui est à mon sens. Hein.
Ouais. Et d'ailleurs, je lis le comment de PPRGB qui dit, d'après la formule mathématique précise, 2 points. En gros et à la brouette, ça monte un peu après, mais tout le temps, et on ne sait pas trop quand.
Moi, j'ai une question pour toi, Julien. Mais du coup, tu vois, il y a deux façons de récompenser le mineur. Tu as effectivement les blocs que tu gagnes lorsque tu mines, et tu as aussi un truc qui va devenir, je pense, de plus en plus gros, en tout cas, ça fait partie de ma question, les frais de transaction. Est-ce que ça, c'est amené à devenir une nouvelle source de revenus très intéressante pour les mineurs? Parce qu'on voit, si je reprends un article de Decrypt, on voit que le volume quotidien moyen est en hausse de façon assez exponentielle aussi depuis les ETF. Il se rapproche au niveau de 52 milliards de dollars. Est-ce que ça s'est amené à grossir aussi avec l'adoption du Bitcoin et compenser du coup ce halving qui est une date de péremption entre guillemets?
Bah, je pense, tu vois, c'est une très bonne question. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais tu vois,
sort ta boule.
Ou dans ma chouche, peut-être qu'elle est cachée. Mais en effet, tu vois, je pense, comme le disait très bien Rémi, à terme, le Bitcoin, tu vois, il y aura plus de Bitcoin en création, vu que le supply, ouais, 21 millions, il sera miné un jour ou l'autre. Donc, tu vois, pour répondre à ta question, tu seras obligé un jour d'incentiver les gens, si tu veux que le Bitcoin ne soit pas simplement, tu vois, que tu le mettes dans une cave et qu'un jour, si tu veux le sortir, bah, tu sors ton node, tu le fasses tourner et que tu fasses la transaction toi-même pour le vendre à un collectionneur ou quoi que ce soit. Si tu veux que le Bitcoin reste, en effet, tu vois, une monnaie interchangeable entre les gens, tu seras obligé de garder le réseau. Et je vois pas qui, tu vois, va payer des millions d'euros, des millions de dollars pour faire tourner un réseau pour, tu vois, les beaux yeux de tout le monde. Donc, en effet, je pense que à terme, peut-être qu'il y aura un consensus, tu vois, avec les développeurs, etc., pour augmenter peut-être, tu vois, cette part-là de récompense dans les transactions pour les mineurs. Et tu vois, je pense, quoi, pour moi, c'est vraiment là-dessus, tu vois, que ça va aller. Peut-être qu'il y aura même des pools, j'en sais rien, tu vois, mais je pense qu'il y aura quelque chose, parce que sinon, c'est pas viable à terme, tu vois, à mon sens.
Ces frais de transaction, là, ce que vous appelez les frais de transaction, moi, je connais pas bien, mais c'est quoi? C'est les gas fees, c'est ça?
Ouais, tu peux le dire comme ça, en gros, si tu veux, tu vois, c'est le principe de la blockchain. À chaque bloc doit être validé par, tu vois, par une puissance de calcul. La puissance de calcul, elle est soit proof of stake, soit proof of work. Bitcoin, c'est proof of work. Et à chaque fois que tu valides un bloc, eh ben, t'es récompensé. Tu vois, c'est ça, en fait. Et donc,
d'accord, mais donc côté utilisateur, tu payes ces frais de transaction.
C'est ça.
Donc là, tu vois, t'achètes ton runestone, tu as payé $50 de frais de transaction, un truc comme
tout
ça.
Tout à fait.
Et ces frais, ils vont où aujourd'hui?
Aux mineurs, la plupart du temps.
Ils vont aux mineurs, la plupart.
Ils vont à ceux qui mettent la puissance de calcul. Tu vois, sur Ethereum, eh ben, ils vont à ceux qui font tourner les nodes de validation, tu vois, en proof of stake, là, ceux qui mettent 31 Ethereum sur chaque node, ou 30, je ne sais plus, ou 32.
D'accord. Mais alors, pour rester sur Bitcoin, le problème, donc, ce que vous dites, c'est qu'à partir du moment où on ne va plus émettre de Bitcoin, les mineurs n'auront plus d'intérêt à maintenir le réseau.
Bah, alors, c'est là.
Enfin, à valider les
moins, moins, voilà, à ce niveau-là. Mais tu vois, à l'heure actuelle, les frais de transaction ne représentent qu'une petite portion du revenu des mineurs. Tu vois, les mineurs créent actuellement, tu vois, environ 900 bitcoins, environ 34,3 milliards de dollars. Je lis ça sur un article de Decrypt par jour, mais gagnent entre 60 et 100 bitcoins et en frais de transaction quotidien, ce qui représente vraiment une toute petite portion. Mais
Donc aujourd'hui, c'est, on va dire, 15% à vue de nez. 15% des revenus des mineurs sont les frais de transaction. 85% sont les... comment dire, sont les émissions de nouveaux bitcoins.
Ouais, aujourd'hui, les frais de transaction représentent 6, environ 6% de revenus de la mineure.
Ah oui, 6%,
et,
d'accord.
Et par contre, voilà, en 2140, ça passera à 100%.
Ah, c'est déjà prévu, bah, ça.
C'est ça, c'est que
à partir du moment où... À partir du moment où, c'est plus, c'est la brouette de PP.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que concrètement, t'as pas besoin de... Est-ce que tu as besoin de faire... Enfin, le système est fait pour évoluer de manière naturelle.
Ah, le système est théoriquement archi bien fait, puisque et on le prouve là aujourd'hui.
Enfin, ce que je veux dire, c'est t'as un risque sur la décentralisation. C'est-à-dire qu'évidemment, théoriquement, à partir du moment où le reward est moins important, théoriquement, tu pourrais avoir moins de mineurs, et donc, moins de mineurs, et donc potentiellement un peu moins de validateurs, etc.
Ouais, c'est vraiment, les frais de transaction, ils vont avancer, tu vois, en corrélation inverse, tu vois, avec le rendement minier, quoi.
Et c'est surtout, tu vois, tout ça, c'est vrai, et c'est surtout en rapport à la valeur du Bitcoin. Si ton Bitcoin il coûte 1 euro à l'atteint, imagine, tu vois, le marché break, quoi, c'est impossible. Mais bon, le marché break, ton Bitcoin il coûte 1 euro et ça te coûte, je sais pas moi, 10 000 à faire tourner, tu vois, le réseau en tant que toi validateur. Tu n'as aucun intérêt, donc tu ne fais plus tourner. Tu vois, c'est un peu cette corrélation-là, en fait, qu'il faut.
Mais la corrélation, du coup, fait aussi que normalement, avec le temps, en tout cas, si tu es dans ce business, tu crois que la valeur d'une part va augmenter et puis surtout les volumes vont augmenter aussi. Et donc, chaque volume représente, donc les frais de transaction vont augmenter avec le temps.
Exactement.
Aussi.
Tout à fait.
D'accord, ok. D'accord. Donc tout va bien. Et alors, pour revenir un peu au halving, enfin tout va bien. pour revenir au halving, il va se passer des choses autour du halving aussi. Il y a quoi? Il y a des célébrations, il y a des moments.
C'est une super. Alors ouais, il va y avoir. Bon, je pense que Pizza DAO fera quelque chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, chez Decrypt, si c'est le moment un peu chill, on va vraiment essayer de créer quelque chose d'assez cool, un espèce d'événement en ligne, bien sûr. On va vraiment suivre et documenter tout ce qui se passe au lieu du autour du halving. Donc ça, c'est un peu une alpha, mais on va créer...
Attends, mais d'ailleurs, attends, on va reparler des alphas, là, mais j'ai vu la news qui est sortie hier là, sur Dastan, de votre réseau de rémunération, de votre social fee by, by Dastan.
Exactement, bah écoute, on lance un nouveau truc qui s'appelle Content Plus. Bon, c'était vraiment, c'était assez marrant parce que c'était aussi ça arrivait très tôt dans la conversation entre Decrypt et Regradio, comment est-ce qu'on peut créer cet écosystème-là qui soit favorable pour toute partie prenante, tu vois, de la création de contenu. Et du coup, très vite, l'idée qui était de fournir un espèce d'outils, de ressources, ou vraiment une plateforme où tu aurais tout pour pouvoir créer du contenu, être reward, etc. Voilà, qu'on puisse le créer.
Vas-y. Nous, on est chaud pour vraiment faire du contenu.
Sans blague, clairement. Donc ça, voilà, ça fait partie. Inscrivez-vous, sur le site, vous pouvez voir qu'il y a une petite barre d'adresse où tu peux mettre ton email pour pouvoir être... pour pouvoir tester ça un peu avant les autres. Donc, n'hésitez pas à mettre votre email et à tester le produit. L'idée, c'est vraiment de le co-construire avec la communauté. Il y a vraiment un chemin intéressant à faire aussi à ce sujet-là, quoi.
Ok. Mais ça veut dire qu'on pourra faire des... On cherche toujours à se barrer de Twitter. On pourra faire des Twitter Space là-dessus ou pas?
C'est, on va pas changer la roue. Pour l'instant, vraiment, il y a beaucoup de trucs qui vont être repris sur ce qui existe déjà. À terme, c'est encore une fois, c'est tout n'est pas construit, et à voir comment est-ce que chaque créateur envisage un petit peu son contenu et comment est-ce qu'on peut aider à faire ça. Mais ouais, carrément.
D'accord. Bon, je ferme la parenthèse, on reviendra là-dessus. Donc, tu nous disais dans cet article de Decrypt, vous allez couvrir, donc un peu en direct, documenté.
Ce ne sera même pas un article, ce sera une page carrément dédiée au Bitcoin halving, où on va mettre à profit tout l'écosystème Decrypt et Rock Radio, donc les créateurs de contenu, des nouveaux formats, des nouvelles façons un petit peu de parler de ça, bien sûr des articles exclusifs un peu sur le sujet. Donc non, ça va être cool, et surtout l'idée c'était de se dire, on comprend grosso modo ce que c'est que le Bitcoin, le halving, c'est on voit ce que c'est mais on n'est pas très au courant, là ça arrive, je pense qu'on est arrivé à un moment d'adoption et de compréhension un peu plus élevé, même voire carrément plus élevé à ce qui était fait auparavant. Et ben, comment est-ce qu'on peut avoir un endroit où on peut suivre ce qui se passe, comprendre peut-être anticiper.
D'accord, très bien. Et d'ailleurs, enfin, je reviens un petit peu sur l'environnement, mais bon, là, il y a l'aspect, on a fait technique, on l'a expliqué, il y a l'aspect financier, on l'a expliqué, c'est-à-dire mécaniquement, mais bon, peut-être qu'il a déjà été anticipé, mais on verra, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une augmentation du Bitcoin, un ATH qui était prévu pour le halving, ce que tu disais au début, finalement, on a pété l'ATH avant le halving. Maintenant, on n'a pas encore explosé l'ATH. Donc, la question, c'est ça. C'est est-ce qu'on va exploser l'ATH après le halving ? Personne ne sait. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une majorité de personnes dans le space qui parient là-dessus, qui estiment que ça devrait arriver, qu'on pourrait toucher les... Enfin, voilà, je vais donner les 80 000 dollars.
Ah, mais il y a bien plus que ça. Je crois que c'est des analyses de JP Morgan. Attends, je dis des bêtises. En tout cas, un analyste, je confirme ça dans un instant, qui, l'année dernière, avait prédit ce qui se passe aujourd'hui, qui annonce un all-time high à 150 000 dollars.
Ouais, mais ça, on entend tous les chiffres, ça.
Non, ouais, mais moi, j'ai.
Non, mais c'est bon, tous les jours, je me réveille. le Bitcoin à 10 000 ou le Bitcoin à 1 million. Bon, moi.
L'Ethereum à 10 000.
Non, le Bitcoin, c'est ce que je dis quand même.
Alors, attends, moi, j'ai l'article.
Non, moi, j'adore. C'est vrai que tu penses toujours un peu à ces vidéos YouTube, alors le Bitcoin à 1 million avant la fin de l'année.
Exactement.
Moi, j'aime bien ça. Mais en effet, moi personnellement, Rem, j'y crois. Enfin, oui, moi, voilà, tout de suite, d'ailleurs, on peut parier.
Non, mais j'y crois. Je sais pas, j'y crois peut-être pas un peu en ce moment, maintenant.
On le fait en achetant nos Bitcoins ou en les vendant pas, mais... Moi, je pense qu'en effet, avant la fin de l'année, on va passer les 100 000.
Alors,
voilà, ça, c'est ma croyance. Peut-être que je me plante complètement, mais en tout cas, c'est là-dessus, moi, que je table là-dessus.
La prédiction dont je vous ai parlé a été du British Multinational Bank Standard Charter. Donc, c'est une banque anglaise qui donne ses prédictions. Donc,
et donc, c'est 150 000.
150 000, ouais.
Une banque qui s'est chargée en Bitcoin.
Et quand
qui a fait ses courses.
Une banque qui file son bag. Voilà comment on fait. Et ils disent c'est pour quand ?
D'ici la fin de l'année. La fin de l'année. Pour 2024, Et je crois, et ils avaient eu raison sur une prédiction. C'était, je ne sais pas, j'essaie de retrouver laquelle, qu'ils avaient donné l'été dernier pour 2023.
Non, mais oui, après voilà,
il y a plein de
prédictions. Là en ce moment, tout le monde BlackRock font des prédictions similaires. Enfin, il y a plein de prédictions qui se font à ce niveau-là. Oui, on a, enfin, en général, c'est le principe d'un bull run, quoi. C'est que la valeur du Bitcoin, normalement, le all-time high est explosé et multiplié par deux, ou on va dire même, ou plus, quoi, tout simplement. Donc, c'est à suivre.
Mais
il y a d'autres.
Mais effectivement, moi, ce que je trouve aussi cool, hein, qui est un truc qui n'a pas forcément rapport avec la, enfin, pas direct avec la valeur. Capitaliste, c'est que tu peux voir aussi de plus en plus d'applications qui sont créées sur le réseau Bitcoin, potentiellement, on l'a vu avec les Ordinals. Moi, je suis très curieux de voir d'autres projets artistiques ou pas, hein, qui se créent de plus en plus sur, sur cette valeur-là. On voit, tu vois, les Solana, qui pètent avec les meme coins, etc. Je pense que ça pourrait inspirer aussi d'autres choses. Hâte de voir aussi ce que les artistes, comment les artistes vont raconter un petit peu aussi ce moment du halving.
Ouais, non, mais c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime bien quand je te parle de célébration. Je pense qu'on va. Enfin, voilà. Enfin, le premier qui me vient en tête, on en parle assez souvent en ce moment. C'est vrai que c'est ces fameuses runes, les fameux runes qui se lancent. Et donc, voilà, qui sont le moment du lancement du protocole runes est prévu au moment du halving. Et là, ça va être un peu aussi. Enfin, je pense que là, si vous couvrez ça côté décrypte, ça va être intéressant parce que. Tu vas avoir des centaines de projets qui ont prévu de se lancer sur le protocole Runes à ce moment-là. Et donc, ça va être sûrement, il y a beaucoup, beaucoup de shitcoins, mais bon, ça fait partie du jeu du moment. Mais il va y avoir beaucoup d'autres choses. Et donc, tu vois, et on voit hein, que, enfin, et je pense que, oui, à mon avis, là, chaque jour, à partir du jour du halving, va être fort en secousse, à mon avis, quoi. Et en lancement, en annonce de projet, en communication. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont prévu d'attendre le halving pour lancer leur projet. Donc je pense que ça va être assez excitant. Ouais. Et juste pour rester sur les... Bah, justement, hein, on voit d'ailleurs, pour revenir sur les runes, on voit que c'est par exemple les runestones. Tu as déjà énormément d'airdrops qui sont prévus pour les propriétaires de ces stones à partir du halving. Donc il y a un moment, en tout cas, en fait c'est vrai que c'est je trouve que c'est hyper intéressant ce qui se passe. C'est vrai que moi c'est pas vraiment ma culture, le Bitcoin. C'est vrai que tu vois, je suis vraiment rentré dans l'univers du Web3 par les NFT, et par les NFT ça veut dire par Ethereum. Et donc si tu veux, pour moi Ethereum c'est ça restera toujours si tu veux aujourd'hui, la techno et l'environnement et l'écosystème qui a la valeur ajoutée la plus intéressante et qui va avoir du mal malgré tout et malgré toutes les complexités qu'on va trouver et malgré tous les frais de gaz qu'on a aujourd'hui, je trouve que ça reste aujourd'hui le meilleur compromis. Voilà, donc ça, voilà, il y a peut-être des gens qui ne vont pas être d'accord, mais je trouve que c'est le meilleur compromis, notamment pour trader des NFT. Et d'ailleurs, quand on voit ce qui se passe en ce moment sur Solana, qui est censé être un réseau scalable, on voit que voilà, maintenant que ça commence à beaucoup chauffer sur Solana, il se passe ce qui s'est passé sur l'intégralité des alternatives à Ethereum, ça veut dire des quacks. Donc voilà, moi j'ai cette conviction forte, mais c'est vrai que pour autant, tout ce qui se passe sur Bitcoin en ce moment, je trouve ça... Il y a quelque chose d'intéressant. Je comprends le mouvement, je trouve ça intéressant aussi. En fait, pour moi, si tu veux, tout ce qui se passe, même ces ordinals, même ces runes maintenant, etc., je pense que ça va être vraiment un moyen de faire rentrer aussi pas mal d'autres gens, et notamment tous les Bitcoin holders de l'époque qui jurent que par Bitcoin. Je suis certain que petit à petit, il y en a certains qui vont commencer à vouloir se mettre aux ordinals, puis aux NFT, ou se mettre aux runes, puis aux NFT. Et donc, je suis persuadé que voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc, ce moment qu'on est en train de suivre, même si, encore une fois, techniquement, honnêtement, même les ordinals, techniquement, c'est compliqué. Tu veux balancer tes ordinals sur un ledger, ledger te prévient que ça va être compliqué et qu'il ne faut pas... et que ce n'est pas fait pour. Enfin, tu vois, on est encore dans cette phase où on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais d'un autre côté, là, le moment Bitcoin, je le comprends complètement. Il y a beaucoup de choses dans cette année qui se passent autour de ça. En effet, il y a l'ETF, il y a le halving, il y a tout cet écosystème Bitcoin qui s'est réveillé grâce à ça. Et moi, je trouve que c'est assez exceptionnel. Donc, en effet, j'ai hâte de voir ces célébrations du halving qui vont être faites par toute cette communauté.
Carrément, carrément, absolument d'accord avec toi. Je pense que l'impact culturel va être beaucoup, beaucoup plus regardé, étant donné que tu as beaucoup plus de gens qui sont rentrés dans le Bitcoin, que ces ETF-là ont permis à des gens de rentrer là-dedans, etc. Donc non, hâte de voir l'impact culturel sur les gens. Ouais.
Je lis un petit peu. PPRGB qui dit « En tant que shitcoiner, je me sens attaqué par John. Oui, on va peut-être faire une OP runes, lol. »
John, il est en train de se placer là, parce que comme Vitalik a annoncé qu'il allait passer la main, il est en train de se positionner, je pense.
Ouais. C'est à moi. Je pense que je pense qu'il va passer la main. On va voir qui va passer la main, c'est un autre sujet. Ça. Les frais vont monter tout le temps maintenant, ce qui va pousser les L2 qui sortent maintenant. On va vers une grosse saison Bitcoin L2. C'est vrai que PPRGB, il est très Bitcoin L2. Donc les alternatives, les parallèles à Bitcoin. Et lui, il dit, nous, c'est Liquid et bientôt Bridge vers RGB, par exemple. Tac, 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 tac.
Mais moi, j'en reviens. Je sais pas si c'est le débat d'ailleurs, mais j'en reviens à ça. Est-ce que. Moi, je dois avouer, je suis émerveillé un peu par Bitcoin. C'est un peu ce qui m'a. C'est pas ce qui m'a attrapé dès le départ, mais comprendre comment ça marche, et à mon niveau en tout cas, et voir en fait la perfection de l'outil, de cette technologie, on va dire. Moi, c'est vraiment un truc qui me captive. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce que les autres blockchains ont appliqué ce même mécanisme de supply fini, etc., etc. Avec, je crois pas en fait. C'est la.
Bah si, t'en as plein.
Ouais, mais Ethereum non. Plein, par exemple.
Ethereum, t'as quand même une. Ethereum évolue en fait, hein. Donc, ça veut dire que déjà la supply, enfin, la
Est-ce que la supply est limitée sur Ethereum?
En fait, pour Ethereum, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que tu as. Oui, il n'y a pas de notion de. Il n'y a pas un chiffre qui a été défini. Malgré tout, par exemple, lors du passage à Ethereum. Le passage à comment on appelle
Duncan
ça
ou Dun...
au, lors du passage lors du passage en fait tu as quand même des principes si tu veux qui aussi réduisent l'intéressement des mineurs en fonction des transactions, il me semble c'est ce qui s'est passé par exemple quand on est passé au merge. Alors je suis pas un expert, peut-être que Metafroggy peut nous aiguiller là-dessus aussi,
mais bon, tout ça pour dire que en fait donc voilà, j'en reviens au truc de Bitcoin. Je trouve que c'est quelque chose d'absolument fantastique. Et je me dis, est-ce que c'est fait pour justement qu'il y ait des ordinals dessus, des runes dessus, tu vois? C'est, je sais pas, je trouve qu'il faudrait laisser qu'il faudrait lui laisser un peu une place à part, quoi.
Ouais. Ouais, c'est un vrai débat c'est un débat qui a lieu dans la communauté Bitcoin avant tout.
Bah, tu vois, pour vous répondre, alors je suis en train de fumer dehors, donc mon Wi-Fi il est un peu en PLS. En effet, ouais, Ethereum, il n'a pas de maximum cap, et c'est pour ça, si tu veux, qu'ils ont implémenté des mécanismes de burn. C'est-à-dire, il y a quelques années de ça où ça a fait un peu un tollé, mais en effet, quoi, c'est vraiment deux façons de voir les choses totalement différentes. Pardon. Mais en effet, Rem, tu vois, au début, tout du moins, il y avait plein de forks, tu vois, des Bitcoin Cash et des trucs comme ça, et il y en a plein qui reprenait un peu ce truc-là de supply limité dans le temps. C'est un peu, tu vois, un peu dans les meme coins.
Bah en fait, c'est tout l'intérêt d'une crypto-monnaie. Et là, finalement, c'est de dire, en contradiction avec ce qui se fait dans le monde réel, on a une supply limitée. On a, voilà, c'est la force de ces monnaies-là, quoi.
Tout à fait.
Ça, c'est oui, bah, c'est la force de Bitcoin. Ouais.
C'est Bitcoin comme il a été défini avec ses principes. Enfin, moi, c'est ça qui est intéressant, ce qui fait que tu as des milliers de différentes cryptocurrencies aujourd'hui, c'est que chacune a défini une tokenomics.
Peut-être que Bitcoin, la spécificité, la spécialité de Bitcoin, ça doit être uniquement le côté crypto-monnaie. Et si les autres et toutes les autres blockchains, si elles veulent faire des NFT, enfin, supporter des NFT, en tout cas, bah, c'est autre chose.
Ouais, après, c'est pas toi qui choisis, là, mais c'est ça le truc. Non, mais ça veut dire que mais c'est une vraie question qu'il y a depuis le début des ordinals, hein, et qui a continué, qui est moins débattue en ce moment, mais qui a été débattue pendant très longtemps. En effet, sur bah, justement le fait que le réseau Bitcoin soit saturé à cause des ordinals et qu'à un moment donné, il menace même potentiellement bah, les blocs, certains blocs d'être validés, ça pose des questions.
Pour répondre aussi à ta question un peu, Rem, alors c'est vrai que tu vois, je pense par design, ça n'a pas été potentiellement conçu comme ceci, mais quand tu regardes le premier bloc qui a été miné par Satoshi, il a inscrit un message à l'intérieur. Tu vois, justement, ou à quelqu'un encrypté, mais en gros, c'était quelque chose, tu vois, de, je sais plus, les chances, c'était pour l'Angleterre, tu vois.
La une du New York Times, je crois.
Ouais, exactement. Mmh. Tu vois, donc, c'est pas un ordinal, ça, tu vois, c'est un message encodé dans un bloc, ça, tout le monde peut le faire. Mais tu vois, tu avais quand même ce mécanisme-là qui était, voilà, on peut aussi communiquer, on peut inscrire des choses en plus que simplement.
Mais, de toute façon, c'était clairement dans la philosophie dès le début. Dans la volonté, voilà, dans la volonté liée au Bitcoin. Après, c'est, si tu veux, d'ailleurs, tu reparles de Vitalik quand il a créé Ethereum, c'est parce que voilà, il y avait une idée dans Bitcoin qu'il cherchait et qui techniquement il avait du mal à réaliser, d'où la création d'Ethereum. Si tu veux.
C'est ça.
Mais donc à la base, il y a toujours cette idée dans Bitcoin. Et peut-être que techniquement, justement, la communauté va faire évoluer aussi le système pour que Bitcoin puisse supporter à un moment l'équivalent d'ordinals ou l'évolution des inscriptions à l'avenir. Aujourd'hui, c'est encore complexe, hein, puis c'est pas fait pour, c'est vrai. Même là, aujourd'hui, t'as un wallet ordinals, tu sais pas trop. Enfin, moi, je suis pas complètement rassuré malgré tout. Tu vois, j'en ai un petit peu, mais je me dis est-ce que je les possède vraiment. Finalement, c'est une grosse partie qui est gérée. Par l'interface, c'est l'interface qui te fournit un peu l'illusion d'avoir quelque chose dans un wallet un peu. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça, si tu veux. Après, bon, ça peut se développer. On voit que ça s'est beaucoup développé depuis un an, que ça évolue. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant de voir cet écosystème. En fait, quand tu as un écosystème qui se crée, que tu le veuilles ou non, c'est très difficile de l'arrêter. Et là, tous les investissements qui ont été faits dans l'infrastructure, dans les services, dans les wallets, dans les plateformes, pour justement trader, échanger, acheter des inscriptions sur Bitcoin et des tokens, l'équivalent de BRC20, moi, je pense que quoi qu'il arrive, il va en résulter quelque chose à la fin de l'histoire. Je ne sais pas exactement quel standard, quel format, quel protocole, de quelle manière, mais moi, je suis maintenant convaincu que quoi qu'il arrive, mais comme tu l'as eu d'ailleurs déjà il y a presque 10 ans sur Counterparty, et que voilà, pour certains ça reste le meilleur système sur Bitcoin, Quentin d'ailleurs, notre cher Quentin n'est peut-être pas là, mais voilà, mais à côté de ça, d'ailleurs on va avoir un débat à Lisbonne avec du coup Chaban, le fondateur le fameux jeu Spell of Genesis, merci Rem, qui va justement faire un petit débat entre les anciens NFT Bitcoin et les nouveaux NFT Bitcoin, tu vois. Et donc avec des gens justement, voilà, de Spell of Genesis à Bitstamps, en passant par Ordinals. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant. Mais en effet, je pense qu'il y aura toujours une imagerie ou l'équivalent de NFT sur Bitcoin, en tout cas. Donc voilà, et donc c'était là. La journée des cryptes sur le halving.
Et texture, alors. Mais ils ne sont pas venus.
Non.
Et ben, c'est non, pas grave, parce pas que venus. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Samy.
Merci, merci Samy. C'était un plaisir de t'avoir. On retrouve l'article dans Decrypt. Donc, à la fois sur Twitter, Decrypt_FR. Et puis, directement sur Decrypt Media, sur le média international. Et puis, tous les sites internet du groupe Decrypt, il commence à y en avoir pas mal. C'est quoi l'URL de base sur laquelle on communique? Decrypt.co?
Je crois qu'il s'est barré. Bon, oui, Decrypt.co.
Merci, Samy. Merci, Rem. Et donc, demain, on reçoit Texture.
Ah bon? Ah bah ouais, s'ils veulent, demain, hein, avec Space Hunters.
Space Hunters, donc on va dans l'univers de la chasse au trésor. En tout cas, voilà, c'était excellent d'être avec vous ce matin. Passez une excellente journée Et il reste, voilà, et elle reste maintenant une vingtaine de journées avant le halving. Donc le compte à rebours est lancé. Passez une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve demain. Et morning. Good morning. Good morning. Happy. Good morning. Really happy. Good morning. With you. With you. With you. Bon, bon, happy. Bon, bon, happy. Bon, bon, happy. Bon, bon, with you. Bon, bon, with you. Bon, bon, with you. Bon, bon, with you.